l'art et des notes.
70e mensuel de Des Polars et des Notes. Bonjour à tous, vacanciers, ex-vacanciers, déconfinés, masqués, tout ce que vous voulez. Bienvenue sur Radio Évasion, Radio Bualise et Radio Laser pour un bref tour d'horizon des nouveautés littéraires. Dérèglement climatique, cataclysme, toute puissance de l'image et terrorisme au sommaire, des sujets légers afin de vous changer les idées avant d'entamer cette rentrée anxiogène entre virus et crise économique. Comme à l'accoutumée, toutes les références des romans sont à retrouver sur le webzine 404 et Pierre-Yves, tout nu et tout bronzé, nous accompagne pour la technique et un son qui fond dans les oreilles comme une glace vanille fraise au soleil. Premier arrêt, tiens, du jour, on va en Afrique du Sud pour le nouveau roman de Deon Meyer, La Proie, qui est paru aux éditions Gallimard dans la collection Série Noire. Donc nous sommes au Cap et Bernie Grissel et Vaughan Cupido, ces héros récurrents, ceux de la Brigade des Hawks, l'élite de la police sud-africaine, enquêtent sur la mort d'un de leurs anciens collègues reconverti dans la protection privée, Johnson Johnson. Ses parents n'avaient pas beaucoup d'imagination. Et celui-ci a été, ou c'est, on ne sait pas, défenestré du plus luxueux train du monde, le Revos. Leur hiérarchie les pousse à conclure au suicide, ce qui, bien entendu, va les pousser à fouiner un peu plus. Et parallèlement, à Bordeaux, Daniel Darrett, la cinquantaine, un ancien tueur de l'ANC, le parti de Nelson Mandela, essaie depuis des années de se faire oublier. Mais de vieux amis ont retrouvé sa trace et lui demandent de reprendre du service afin d'éliminer, ni plus ni moins, le président sud-africain en visite en France. Deon Meyer, c'est un des auteurs de polars les plus lus dans le monde et il fait rarement dans la dentelle. Pourtant, jamais un de ses romans n'a été aussi sombre que celui-ci, aussi pessimiste sur l'avenir de son pays. La corruption est telle qu'elle est devenue le fonctionnement même de l'État, ce que Meyer nomme la captation de l'État par un clan, et je ne crois pas qu'il s'agisse de fiction. C'est un superbe roman, très très noir, et des vieux combattants usés contre de jeunes loups cyniques et sans scrupules, c'est superbe. Et on s'écoute Solomon Burke, Cry to Me.
When your baby you're all alone and nobody calls you on the phone, don't you feel like a cry? Don't you feel like a cry? Well, here I am, honey, come on, you cry to me. When you're all alone in your lonely room and there's nothing but the smell of her perfume, don't you feel like a cry? Don't you feel like crying? Don't you feel like a cry? Come on, come on. Walk with me. Oh, oh yeah. When you're waiting for a voice to come in the night, but there's no one, don't you feel like a cry?
Cry, 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 cry
La canicule que nous venons de vivre n'est rien à côté de celle qui accable Berlin et les personnages de Soleil de Cendre, le nouveau roman d'Astrid Monet qui vient de paraître chez Aguleux Éditions dans la collection Aguleux Fiction. Cette fournaise, en définitive, sera réellement le cadet de soucis des personnages, comme nous allons le voir avec l'autrice. Bienvenue en pleine apocalypse, donc, et bonjour Astrid.
Bonjour, bonjour Patrick.
Donc, c'est l'histoire de Marika, une mère célibataire de 38 ans qui habite en France et qui décide de se rendre à Berlin en compagnie de son jeune fils Solal, qui a 7 ans, pour lui présenter son père qu'il n'a jamais vu. Pourquoi cette décision soudaine après 7 ans ?
Ah, pourquoi elle y retourne ? En fait, j'ai choisi l'âge de 7 ans parce que c'est un âge assez symbolique. Alors, je ne vais pas raconter pourquoi elle est partie parce que ce serait peut-être raconté dans le roman, mais on va comprendre effectivement son désir de voilà pourquoi elle est partie et elle revient pour plusieurs raisons. Alors, j'ai choisi l'âge de 7 ans parce que c'est toujours un âge symbolique aussi dans l'éducation. On dit qu'à partir de 7 ans, enfin 6 ou 7 ans, les enfants normalement voilà doivent ont une plus grande indépendance. Et donc, à ce moment-là, elle sent en elle l'envie d'un peu d'indépendance et un retour aussi qu'elle cherche dans son premier métier qui était, on le voit au début du roman, la couture. La couture, il y a d'ailleurs toute un personnage symbolique avec Marlène Dietrich. Donc, il y a à la fois ce sentiment qu'elle a d'avoir envie de changer et donc de retourner dans cette ville où elle avait son premier amour par rapport au théâtre et à la couture.
Le monde là, quand elle s'en va, le monde dans lequel elle vit, c'est un monde qui est très très chaud, il fait 44, 45 degrés, on bat des records de chaleur partout, il y a des pénuries d'eau, il y a des manifestations écologistes, c'est une légère anticipation de ce qui nous attend.
Oui, exactement. En fait, ce que j'ai voulu faire, l'écriture de ce roman a vraiment été nourrie un peu par un sentiment d'angoisse et d'impuissance que j'ai face à sa situation. Et donc, j'ai voulu, comme je suis pas quelqu'un qui va forcément dans les manifestations, je suis pas une personne engagée politiquement, écrire Soleil de Cendre, c'était pour moi aussi m'engager quelque part soulever toutes ces inquiétudes que j'ai. Donc j'ai essayé de pousser d'un tout petit cran au-dessus ce qu'on vit actuellement. Donc dès le début du roman, il y a par exemple, on voit des nouvelles lois par rapport à l'eau, il y a de plus en plus de manifestations, il y a l'eau effectivement qui devient rare, il fait très chaud, enfin voilà, j'ai voulu pousser juste un cran au-dessus et rester toujours, ça a été le grand enjeu du roman, rester à la frontière vraiment de l'apocalypse, même si on y approche au-dessus, mais voilà, je voulais faire un livre de littérature générale, je voulais pas faire de l'ASF, voilà, je voulais rester toujours à la frontière, ça a été l'enjeu du roman.
Bon, très très légère anticipation.
Oui, exactement, très légère anticipation, on le voit dans la troisième partie quand même, oui.
Tout se passe bien, premier jour, parce que le roman se déroule sur 3 jours, tout se passe bien le premier jour. Thomas, le père de Solal, est dramaturge, metteur en scène. La rupture qu'il a eue avec Marika est pleine de non-dits. Mmh. Et il y a plein, tout leur passé à Berlin, Marika se promène un peu, le passé de Berlin, etc. revient. On a l'impression d'un monde presque en ordre. Et auquel même la chaleur, même la pénurie d'eau, etc., il n'y a pas eu de grand changement, en fait.
Il n'y a pas eu de grand changement, j'ai pas bien compris la question.
Il n'y a pas eu de grand changement, les gens se comportent exactement comme avant. Thomas est ravi de revoir son fils, enfin, de voir enfin son fils. Tout se passe bien, il n'y a rien d'extraordinaire qui s'est passé malgré l'augmentation de la chaleur. Ça me rappelle un peu l'histoire de la grenouille, il y a qu'on met dans l'eau froide et on allume le feu en dessous. Tout se passe comme à l'ordinaire.
Au niveau de la relation, oui, ça c'était. Alors, en fait, le livre, il est à la fois un livre sur la famille et à la fois un livre sur la fin du monde et voilà, le réchauffement climatique. Et donc, je voulais à chaque fois. J'ai toujours cette idée, bien sûr, de frontières, ce qui est intéressant parce que ça se passe en Allemagne et que l'Allemagne est un pays qui a été divisé, donc il y a énormément de symboles dans aussi le choix de Berlin. Et j'ai toujours voulu essayer d'être dans la nuance et d'être dans la pudeur, et donc c'était pas évident. Il fallait que j'arrive à le tenir, cette histoire d'un petit garçon qui a pas connu son père et qui va le retrouver. Donc je voulais mettre beaucoup de nuances. Et j'ai écrit une scène que je pense intéressante dans leur rencontre, qui se fait que par des mains, en fait, quand ils sont dans le bus. Et voilà, je voulais qu'il y ait aussi une, pour arriver à faire monter en dramaturgie les personnages, qu'il y ait une évolution, une rencontre entre eux, et une des scènes clés du livre importante, ça va être quand ils vont être à un moment tous les deux. Mais il fallait que j'emmène ça de côté aussi un peu mystérieuse et un peu décalée, et qu'il n'y ait pas des rencontres classiques qu'elle souhaite pourtant, parce que quand elle est dans l'avion, elle s'endort et elle imagine des retrouvailles un peu plus classiques. Donc voilà, il fallait toujours garder un côté un peu mystérieux, peut-être un peu décalé, inquiétant.
Mais il y a un personnage qui est assez décalé et inquiétant, c'est Alice Kaufman.
Ah ouais, je l'adore.
qui est la voisine de Thomas, ouais. Et qui est une dame qui attend depuis 30 ans un message de son mari qui devait passer de République démocratique allemande à la République fédérale allemande, et dans le coffre d'une voiture, et elle attend comme si c'était hier, elle attend un message.
Oui, en fait, ce que je voulais aussi montrer par là, parce que si j'ai choisi, Berlin, c'est une ville qui me fascine, une ville que je connais très bien, et c'est aussi, je suis passionnée d'histoire, donc c'est vraiment pour moi la ville du XXe siècle, et s'il y a bien dans l'histoire européenne une ville qui symbolise la séparation, et la séparation avec la séparation de la guerre froide, c'est Berlin, donc c'était aussi intéressant, bien sûr, de parler de séparation en étant dans cette ville. Et le personnage de Thomas a grandi en RDA, donc même si c'est pas un des sujets, c'est quand même là. La RDA à plusieurs reprises apparaît, et donc Alice Kaufman représente vraiment cette attente, l'attente qu'ont eu énormément de personnes pendant les années du mur, l'espoir qu'ils ont eu, et puis sur un plan plus politique et historique, ce qui a été très complexe à la chute du mur, c'est que il y a eu aucun jugement par rapport à toutes les tortures qu'il y a pu avoir, notamment dans les prisons de la Stasi ou des choses comme ça. Et donc c'est ce petit aspect-là, très légèrement en fait, je souligne, mais de manière vraiment très humble en fait.
Mais en fait, vous faites un petit peu le contraire de ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'il y a eu la réunion, il y a eu la réunion de l'Allemagne, là vous réunissez le père et le fils, ça c'est le premier jour, donc comme je disais, tout se passe à peu près dans une histoire normale, etc. Et le deuxième jour, vous faites absolument tout exploser.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il y a un feu absolument abominable, on est obligé d'évacuer la moitié de la population. Il y a une inquiétude énorme, il y a des dizaines et des dizaines de victimes, et comme le feu ne suffisait pas, il y a un énorme tremblement de terre qui déchire la ville en deux, avec Marika d'un côté et Thomas et Solal de l'autre.
Oui, en fait, les trois parties, les trois journées, c'était vraiment une structure voulue, très réfléchie, etc. C'est un côté très dramatique et comme une pièce de théâtre, je voulais le roman resserré de toute façon. Donc ça me convenait bien de cette manière-là. Et en fait, j'aurais pu effectivement faire que le tremblement de terre, mais il y a quelques années, j'ai lu, ça m'a complètement interpellé, un article qui parlait de cette région de volcans qui habite dans l'ouest de l'Allemagne et qui pourrait éventuellement se réanimer. Et il y a eu, une fois que j'ai terminé le livre, là, en juin, un article belge a d'ailleurs réécrit, refait un journal belge, pardon, a refait un article sur ce volcan disant qu'il y avait une potentielle éruption voilà au cœur de l'Europe. Donc ça m'a intéressé vraiment de partir de ça, parce que c'était, même si ça reste, c'est pas le sujet le plus important du roman, mais cette région là en Allemagne, elle est vraiment dans une région frontalière avec la France, le Luxembourg, la Belgique, et qu'est-ce qui se passerait. C'était vraiment déjà pour montrer que ces grands problèmes, ces grandes catastrophes naturelles ne vont pas, peut-être, et sont déjà, elles ne vont plus se passer à l'autre bout du monde, elles vont se passer au plein cœur. Et donc je voulais prendre cette partie frontalière de l'Allemagne, et après Berlin qui est frontalière avec la Pologne, etc. Donc c'était vraiment, voilà, cette envie.
Ça va se passer chez nous, mais il y a même une partie de la France qui est évacuée.
Oui, voilà, exactement, toute cette partie-là. Donc c'était une façon aussi d'impliquer, comme le livre il est écrit en français pour des Français, j'espère qu'il sera traduit, mais voilà, aussi de rendre aussi pour le lecteur la chose plus concrète. Moi je parle des centrales nucléaires qui sont, voilà, du côté français, enfin, donc voilà, c'était pour leur permettre peut-être de s'identifier ou de se rapproprier plus, et que l'histoire ne reste pas que à Berlin.
Et le pauvre Solal donc se retrouve avec Thomas. Ils étaient partis voir les grands-parents paternels de l'enfant. Ouais. Et donc Solal est dans l'impossibilité de découvrir ses racines, en fait, parce que c'était bien ça qu'il était venu faire.
Oui, voilà, il était venu. Enfin, c'était oui, il était venu pour rencontrer son père. Alors, il va le rencontrer d'une certaine. Enfin, il va faire connaissance, mais enfin voilà. Je peux pas trop en dire. Enfin, je sais pas jusqu'où je peux raconter.
Non, non, bah non, on va pas raconter la superbe scène. Mais par contre, ça donne une seconde naissance pour Solal.
Oui, en fait, les deux. En fait, ce que je voulais vraiment, déjà, je voulais faire des personnages qui soient assez imparfaits au début. Qu'on se demande, enfin voilà, qu'on ait éventuellement un rapport ambigu avec eux. Je voulais pas des choses lisses, je voulais vraiment pousser aussi chaque personnage dans ses retranchements et les faire évoluer chacun. Donc Thomas évolue lui parce qu'il va se révéler en tant que père finalement, et il va faire voilà que voilà. Marika va évoluer elle parce qu'elle va arrêter de voir le monde qu'à travers son fils et elle va se détacher de lui. Et Solal grandit en fait aussi complètement parce qu'il prend la décision de se sauver à un moment. Voilà, mais je veux pas trop en dire.
Marika, on a l'impression qu'elle se rend compte tout d'un coup que Solal n'est pas que d'elle. Thomas peut se le réapproprier parce que Marika accepte que oui. L'enfant ne soit pas uniquement à elle.
Mais oui, c'est ce moment-là. Enfin, ça va avec la première question que m'avait posée au début. Ce souhait, elle y va quand même vraiment. D'ailleurs, elle lui dit, mais enfin, lui, évidemment, il le met en doute. T'es pas venu ici que pour moi. Mais le fait de vouloir retrouver un peu aussi sa vie, le fait de vouloir vraiment et sincèrement, elle le dit à un moment, est-ce qu'on va réussir à former quelque chose comme une famille? Elle doutant vu ce qu'elle a vécu, ayant du mal à avoir confiance dans le fait de pouvoir réussir à faire une famille.
Et c'est une belle Europe en ruine quand même.
Ouais, c'est une sacrée Europe en ruine, mais j'ai voulu un peu d'espoir. En fait, si j'ai choisi Berlin, c'est que c'est une ville qui est en permanence en construction et en reconstruction, qui se relève. Et donc, la choisir, c'était pour moi aussi une note d'espoir, parce que je pense qu'on va se relever tout ça, mais il y a beaucoup de ruines, oui, effectivement.
Il y a effectivement beaucoup de ruines. Merci beaucoup, Astrid.
Merci beaucoup, Patrick.
Je rappelle votre roman, c'est Soleil de cendre, d'Astrid Monet, qui est paru aux éditions Agulo. Et on va se quitter en écoutant David Bowie, Heroes.
Ah, très bien. Merci beaucoup.
Qui est dans le roman. Merci beaucoup, Astrid.
Au revoir.
Au revoir. One day. Après le formidable succès de Désoriental, son premier roman paru aux éditions Liana Levy en 2016, Negar Djavadi revient avec Arène, toujours chez Liana Levy, un livre-monde analysant avec acuité nos rapports à l'image, la manipulation de masse et des personnages perdus dans les rouages d'une machine folle. Bonjour Negar.
Bonjour.
Avant de parler du fond, j'aimerais qu'on parle un petit peu de la forme de ton texte, parce qu'il y a pratiquement une sculpture des phrases à certains moments où il y a des espaces très longs entre certains mots. Dans le corps du texte, il y a des insertions de tweets, de notifications de plateformes d'infos. On dirait un petit peu que tu as voulu casser le fil du récit, comme nos activités actuelles sont entrecoupées de tous ces événements.
Oui, c'est vrai que j'ai essayé un peu de casser la linéarité d'un récit, parce qu'aussi on est dans la tête des personnages, donc il y a aussi de temps en temps ce temps où de la réflexion, de la sidération, des personnages qui pensent, qui s'arrêtent de penser, donc du coup les mots sont un peu écartés pour donner un peu ce rythme-là. Et aussi en effet, à travers les tweets, à travers des dialogues qu'ils entendent dans la rue, c'est un peu l'intervention du monde extérieur dans le quotidien qui est un peu permanent, en tout cas dans ma vie à moi, où il y a des tweets qui arrivent, où il y a sans cesse des informations sur le téléphone portable qui nous recolle au monde, et puis on se détache du monde, on fait ce va-et-vient en permanence. Donc le texte essaye de refléter un peu ça, en effet.
Oui, et puis ces irruptions, c'est même plus que des interventions, c'est des irruptions. Ça change carrément la direction que vont prendre les personnages au fur et à mesure.
Oui, tout à fait. C'est le mot qui convient. C'est des irruptions, oui, absolument. Et qui, parfois même, donnent des nouvelles du monde. Par exemple, les intempéries et que les personnages effacent. Le nombre de morts, il y a eu 13 morts, des intempéries dans le nord de la France. Où on montre aussi à quel point... toutes ces notifications, malgré les nouvelles que ça apporte, parfois des drames même, ne sont pas pris en compte. Oui. C'est tellement quotidien et c'est tellement banal, devenu banal, qu'on les efface, on ne les lit même pas.
On efface 13 morts, ouais, d'un coup de pouce.
Absolument.
Et donc, ouais, ce roman, Arène, se passe sur un tout petit périmètre de l'Est parisien. Et par contre, on y croise absolument toutes les nationalités, toutes les cultures. C'est pour ça que je parlais d'un livre-monde. On a l'impression que tu as concentré ton histoire dans une arène, justement.
Oui, en fait, ça se passe essentiellement, c'est-à-dire l'arène se passe là. L'arène, c'est un mot qui signifie ce que ça signifie, que tout le monde connaît la signification de l'arène. Et pour la scénariste que je suis et pour tous les autres scénaristes, l'arène, c'est l'endroit où se passe l'action. Aussi, c'est-à-dire dans le jargon scénaristique, on appelle ça une arène. Donc cette arène-là est double. Donc l'arène où se passe l'action, c'est l'Est parisien. Même s'il y a des personnages qui vivent ailleurs dans Paris et il se passe des choses ailleurs dans Paris, par exemple le personnage un peu principal, je dirais, celui par qui l'histoire commence, travaille dans le 7e arrondissement, voilà. Mais l'arène, l'action principale se passe dans l'Est parisien et c'est un quartier qui, sans trop pousser et sans trop exagérer, concentre aussi énormément de monde. Il y a énormément de nationalités différentes, de gens différents, de religions différentes qui vivent dans ce périmètre entre le 10e, le 19e, le 20e et le 11e arrondissement de Paris. Donc je n'ai pas vraiment exagéré pour en faire un livre-monde.
Non, ça paraît pas du tout forcé. Ça paraît pas du tout forcé parce que les personnages sont à leur place. Et donc, ce qui est justement le personnage principal, c'est Benjamin Grossman. Mm-hmm. Et Arendt, c'est pas un roman noir, c'est pas un polar, et pourtant tout commence par un meurtre. C'est un règlement de compte, une histoire de vendetta entre deux cités et entre deux gangs de gamins, la Grange aux Belges et l'Aubel et la Cité Rouge. Et qui va servir un petit peu de toile de fond à tout le récit et qui ne demande qu'à s'embraser, en fait.
Absolument. Alors, il y a en effet cette vie ce vivre ensemble, j'allais dire, dans ce quartier où tout le monde vit ensemble, mais tout le monde vit d'une certaine manière à côté les uns des autres. Le quartier est assez inflammable, encore plus inflammable dans le récit, parce que ça reste quand même une fiction. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui ne demande qu'à s'embraser pourvu qu'on y jette une allumette. En tout cas, tout est prêt pour ça. Donc, c'est ce qui arrive à Benjamin un soir qui va en effet mettre le feu à ce quartier. Mais c'est pas, il en faut pas beaucoup en fait. Il y a eu déjà eu des feux dans ce quartier. Il y a déjà eu des voitures de flics qui ont pris feu sur le quai de Valmy, etc. Donc, ça reste quand même un quartier qui est très palpitant comme ça.
Oui, mais c'est, y a aussi, ça, tu en parles dans le roman, c'est là où il y avait le gibet de Montfaucon et on exposait les condamnés pendant des jours et des jours, les condamnés à mort, les pendus qui restaient là.
Oui, c'est exactement ça. Ça se passe. Le gibet de Montfaucon était aux alentours, c'était entre la Grange Aubel, où on a construit d'ailleurs cette cité de Grange Aubel, et la place du colonel Fabien. Et d'ailleurs, il y a un écriteau là qui l'indique. Et qui était en fait un gibet qui a duré quand même pendant 6 siècles. Ce n'est pas rien. Donc les corps étaient pendus là et pourrissaient et tombaient. Il y avait une trappe en bas qui s'ouvrait, les corps disparaissaient. Je crois même que c'est un lieu où les femmes étaient enterrées vivantes, en fait, sous le gibet. Voilà, donc c'est quelque chose qui a dû être assez effrayant, terrifiant, hein, le spectacle de la mort comme ça, la mort exposée au vu et au su de tous. Et qui a dû marquer vraiment le quartier. Maintenant, on en parle peu, et je suis sûre qu'il y a plein de gens qui habitent dans le quartier qui connaissent pas l'histoire de ce gibet, moi y compris si je n'étais pas passée à côté de cet écriteau, mais ça a dû être effrayant, en effet, pendant des siècles et des siècles.
Et donc là, la mort était exposée dans toute sa cruelle réalité, et le personnage principal, ce Benjamin Grossman, ne fait pas grand-chose, en fait, pour mettre le feu. Il perd tout simplement... enfin. Où il se fait voler son téléphone portable. Mais avant ça, il était venu rendre visite à sa mère, Cathy, qui a un rôle, à mon avis, très important, qui est restauratrice, monteuse de films anciens. Et Benjamin Grossman a un rôle très, très important dans la société. Il dirige Bicurrent France, qui est l'équivalent de Netflix. Hein. C'est vraiment ça. Qui compte des millions et des millions d'abonnés. Et donc, il a délaissé sa mère depuis des années et des années. Et tout d'un coup, il vient la voir et il pique une colère parce que sa mère héberge un réfugié afghan qui s'appelle Amir. Et il a vraiment l'impression d'être victime d'une injustice.
Oui, il a l'impression d'être dépossédé de sa chambre, en fait. Parce que la mère, en fait, elle fait l'erreur, mais elle fait pas l'erreur. Elle sait très bien ce qu'elle fait tout en voulant de le faire. C'est-à-dire, elle appelle cette chambre là qui est, elle a un petit trois pièces. Elle dit sa chambre en parlant d'Amir. Or, c'était la chambre de Benjamin. Donc, c'est ça qui le met un peu hors de lui. C'est-à-dire le fait que sa chambre soit attribuée à quelqu'un d'autre, donc il se sent remplacé, même si il sait au fond de lui qu'il a tout fait pour être remplacé, puisque ça fait très longtemps qu'il a pas donné des nouvelles à sa mère, et la mère sait qu'elle va blesser son fils, et pourtant elle le fait. Donc, à partir de ce moment-là, en fait, ça commence peu à peu à déraper, cette histoire-là, parce que cette rencontre, il vient voir sa mère qui lui a demandé justement de venir chercher ses affaires. Donc, il vient assez gentiment, en se disant quand même qu'il va lui raconter un peu sa vie, parce que sa vie est devenue assez, incroyable depuis qu'il travaille chez Bicurrent et qu'il est devenu le directeur de fiction. Et finalement, ça se passe pas comme il le pense, puisque la mère n'est pas là à l'attendre les bras ouverts, puisque elle lui parle de se réfugier. Donc, peu à peu, ce qui était une soirée assez banale dérape jusqu'à, en effet, 400 pages plus tard. Loin à conduire à cet embrasement du quartier.
Oui, et Benjamin Grossman, il a une réaction qui est très, très, pas très étrange, qui est naturelle. Quand il sort de chez sa mère, qu'il est énervé, et ben, il a envie de téter et il va s'acheter du tabac alors qu'il a arrêté de fumer depuis très longtemps. Et donc.
assez normal quand on est fumeur, oui.
Et au bureau de tabac, et voilà, il y a une bousculade. À côté de lui, il y avait un jeune arabe. Donc, forcément, comme on n'est pas à l'abri des préjugés, c'est forcément le jeune arabe qui lui a volé son téléphone. Enfin, c'est ce qui se met dans la tête. Il y a une poursuite, etc. Et c'est ça le battement d'aile de papillon qui va embraser le quartier. C'est aussi bête que ça. À partir du moment où il retourne au sein maternel, il perd son téléphone où il y a toutes ses adresses, toute sa vie professionnelle et il n'est plus rien.
C'est exactement ça qui va être en fait l'élément déclencheur de toute l'histoire. Et en même temps, le fait est que ça aurait pu se régler autrement, mais chacun de ces personnages suit sa logique, en fait. Benjamin est dans une certaine logique. En effet, il pense que il y a une bousculade, il perd son téléphone, et enfin, il trouve plus son téléphone 5 minutes plus tard, et il se dit que ça doit être ce jeune homme, parce que il est lui dans sa logique. Et le jeune homme, quand il va l'aborder, parce qu'il va finir par le trouver dans le quartier et l'aborder en lui demandant son téléphone, il l'écoute pas, il lui répond pas, il lui dit dégage. J'ai pas ton téléphone, dégage. Et lui aussi est dans sa logique. En fait, ils restent tous et tous les autres personnages qui vont venir s'ajouter à ces deux personnages parce que de cet événement, en effet, ça va servir, ça va faire un peu boule de neige et entraîner d'autres événements et faire venir d'autres personnages dans l'histoire. Et chacun est dans sa logique et reste dans sa logique jusqu'au bout. Et c'est pour ça qu'en fait, ça s'embrase d'une certaine manière parce qu'ils s'écoutent pas, ils s'entendent pas, ils se regardent pas, ils se comprennent pas. Et ils n'ont pas envie, de, parfois même, de se comprendre. Donc, du coup, c'est ces logiques qui s'affrontent.
Je ne sais pas si... J'ai l'impression que ça s'embrase aussi, parce que tout est baigné par la fiction et qu'on n'est plus capable de faire la différence entre la fiction qui est déversée par les séries Big Current et la réalité qu'on observe. Déjà, on n'a plus le temps de penser et les réactions des personnages sont presque tirées des séries.
Oui, ça c'est aussi une autre lecture, j'allais dire une couche de lecture supplémentaire du livre, c'est qu'en fait chacun d'eux est le personnage de l'autre d'une certaine manière. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que j'ai eu envie de construire. C'est-à-dire que comme vous venez de le dire, c'est forcément le garçon arabe. Or, le garçon est arabe, donc il véhicule avec lui, même s'il a la peau assez basanée, il véhicule avec lui toute cette image qui fait partie de la fiction, des fictions sociales qu'on s'est construit. Forcément, c'est le jeune arabe qui vole le téléphone portable. Forcément, la flic est méchante. Forcément. Et en fait, c'est cette fictionnalisation de la réalité et les récits qui viennent s'ajouter à ça, parce qu'on prend pas non plus le temps. Je pense aux chaînes d'infos qui très vite s'emparent d'une information et construisent tout un récit autour. Alors, où est la vérité? On ne sait pas vraiment. Et d'ailleurs, toute cette histoire va conduire à un embrasement, mais on ne connaîtra jamais la vérité de ce qui s'est passé ce soir-là entre Benjamin et ce garçon. Et Benjamin ne le saura jamais. Et en fait, chaque personnage est comme ça, à la fois lui-même. Je pense à la fille qui filme...
La fille caméra.
Camille. Et Camille est à la fois elle-même, à la fois ce pseudo sur Twitter, d'une certaine manière.
Et c'est elle qui montre la réalité, en fait. Elle l'observe à travers le filtre d'une caméra et elle la monte, la réalité. Et ensuite, cette réalité est organisée soit par les chaînes info, soit par des gens qui ont intérêt à mettre le feu. Enfin, il y a toute une chaîne qui fait que la société est en train de se déliter très très rapidement. Ce fameux vivre ensemble, etc., dont on parlait au début, tout ça se délite à force de manipulations qui se suivent.
Oui, parce que ça, peut-être que ça aussi est de domaine de la fiction. Et en fait, c'est des mots qu'on invente comme ça et qu'on nous balance avec des récits, avec toute une fiction très, très idéalisée et à laquelle la réalité ne correspond pas à cette fiction de vivre ensemble. On arrive à vivre ensemble, c'est pas le problème. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe et c'est pas comme ça que ça s'organise. Et quand il y a des conflits ou quand il y a, par exemple, dans un quartier, comme dans le 10e arrondissement, il y a énormément de drogue, on n'écoute pas, puisqu'on veut tellement que les gens correspondent à cette fiction et que les choses qu'on dit et qu'on prêche correspondent à ces fictions qu'on ne regarde même plus la réalité. Et c'est pour ça d'ailleurs que Benjamin travaille chez Big Current, comme vous l'avez dit, qui est une sorte de concurrent de Netflix. C'est qu'aujourd'hui, l'image est devenue extrêmement importante. Et les récits qu'on raconte à travers ça, que ça soit les chaînes d'information, que ça soit les fictions, que ça soit des mots qu'on balance et il faut correspondre à ces mots, Voilà, donc c'est la fictionnalisation un peu de la réalité, en effet.
Oui, mais il y a une très belle image aussi, c'est le passage où Cathy répare ses pellicules, etc., où elle explique que les pellicules, les images, portent en elles leurs propres toxines.
Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça, absolument. Les images sont empoisonnées d'une certaine manière. Si on ne sait pas les manipuler, les images sont empoisonnées. C'est d'ailleurs le cas de Camille, qui est cette fille qui... Voilà. Il balance cette vidéo et elle fait un montage. Et parce que les images, surtout les images animées, mais on peut faire ça avec aussi des photos, mais les images animées, on les présente montées. Donc, quand on dit montage, on dit d'une certaine manière manipulation. On dit construction d'un récit. Donc, qui ne correspond pas exactement pile poil à la réalité. Donc, mais quelle que soit cette image, parce qu'il y a forcément un avant ou un après, même si on la présente brute, même si c'est pas deux images collées ensemble, on a un peu coupé avant, on a un peu coupé après. Donc, de toute façon, quelle qu'elle soit, l'image est forcément manipulée.
Forcément, il y a... mais on a... c'est le but un peu du roman. On a l'impression d'une ville-société qui se délite peu à peu et qui avale des personnages qui font chacun leur scénario, chacun leur fiction, et que cette ville-société, elle les englue un peu comme une toile d'araignée et qui se débattent.
Oui, c'est un peu ça. C'est l'image de cette toile d'araignée est tout à fait juste. Et en plus, bon, on vient de vivre le confinement et on est resté quand même pendant quelques mois à regarder la télé, à regarder les chaînes d'infos et à regarder des séries. Donc, jusqu'à quel point tout ça influence notre regard sur le monde? Moi, je ne le sais pas, mais je me dis que ça doit quand même influencer, parce que on parle souvent de l'américanisation de la société française, voilà. Mais l'américanisation de la société française passe aussi par les séries, c'est-à-dire passe aussi par les problématiques exposées dans les séries américaines que nous on prend aussi à notre compte, parce qu'on le voit et parce que ça nous raconte quelque chose, même si c'est pas exactement notre rapport, par exemple avec les colonies ou avec Black Lives Matter, avec enfin tous ces sujets que brasse un peu le roman. C'est pas exactement ce qui s'est passé en France, ne s'est pas passé exactement comme ce qui s'est passé aux États-Unis, mais
on le voit notre à travers ce filtre-là,
inspiré de ces séries-là.
Ouais, exactement. Voilà. Mais il y a encore 500 000 choses à découvrir dans ce roman-là. Je rappelle, c'est Arène de Negar Djawadi qui est paru aux éditions Liana Levy. Il y a la vie d'Asia Baydar, la flic qui est prise au piège par Camille, la fille caméra. Enfin, il y a des dizaines de personnages. C'est magnifique. Il y a une petite fille ninja. Il y a plein de choses et toute une intrigue. Et est-ce qu'on attend 4 ans avant le prochain, Negar?
Oh, je sais pas. Il faut quand même que le temps de la maturation, de la réflexion, c'est quand même long d'écrire.
Hein. Oh là là, oui. attendant, on va s'écouter The Strokes qui sont dans le livre. C'est
formidable.
Alors, okay. Leave it. Merci beaucoup, Negar Djawadi.
Merci beaucoup.
À bientôt.
I'm not
La triplette brestoise est de retour. Léane, la flic, Vanessa, la psy et Elodie, le médecin légiste, pour une nouvelle aventure digne des plus dingues des blockbusters. L'île abandonnée, parue aux éditions du Palémon, et l'ami Pierre Poucheret est avec nous pour nous expliquer comment on pose un Airbus long courrier transatlantique sur le tout petit terrain d'aviation de l'île d'Ouessant. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Alors, et deux histoires pour le prix d'une. Ça commence aux États-Unis avec deux agents du FBI qui ont quelques problèmes.
Oui, tout à fait. J'ai voulu revenir un peu à mes bases, qui sont de travailler sur des affaires qui mêlent la politique, la fiction, le terrorisme. Voilà.
Et donc, il y a deux agents du FBI qui disparaissent et John Le Breton, un analyste du FBI, pense qu'un gros coup se prépare dans la mouvance d'extrême droite qu'ils étaient censés noyauter.
C'est cela même. Et au même moment, nos triplettes, que maintenant mes lecteurs commencent à connaître, sont en vacances, enfin finissent leurs vacances à New York, après un petit séjour de repos bien mérité, et elles s'apprêtent à prendre un Airbus A380 pour rentrer en France et reprendre le travail.
Et naturellement, en prenant l'avion, c'est jamais innocent. Oui, vas-y.
Et ben et voilà. Et derrière, pendant qu'elles sont dans l'avion, elles ne le savent pas, mais il se passe pas mal de choses, aussi bien aux États-Unis qu'en France, puisque la menace terroriste dont tu as parlé va s'avérer d'abord par un drame qui va commencer au-dessus de l'espace aérien allemand. Et l'A380 dans lequel sont mes personnages ne va pas avoir le droit de survoler la France. Il va leur rester une ultime solution, celle d'atterrir à Ouessant. Alors, comme tu l'as dit, poser un A380 à Ouessant, c'est pas banal, mais c'est possible. Alors, ça a étonné beaucoup de gens, je me suis beaucoup renseigné là-dessus. Et j'ai un pilote d'Air France qui a eu la gentillesse de me poser son avion sur cette île. Alors je vous explique. Hein, je lui avais demandé pas mal de renseignements techniques, et puis en fait il s'est pris au jeu et il a rédigé tout ce qui concerne la partie technique de cet atterrissage. Donc c'est plus que bien documenté, puisque normalement un lecteur doit, surtout s'il est pilote, doit vraiment vivre ce moment. Et moi, j'ai arrangé tout ça à ma sauce pour que ça soit véridique et ça plaise, quoi. Voilà.
Puis t'as ajouté un tout petit personnage, c'est la tempête du siècle.
J'ai ajouté un
même
voilà.
Plus ans qui est juste un Airbus A380 posé sur un aéroport d'aéroclub. Il fallait bien qu'il y ait la tempête la plus forte.
Exactement. Alors là encore, j'ai pris pas mal de documentation puisque je me suis référé à tout ce qui s'était passé en 87 avec ce qui avait été en France l'ouragan qui avait dévasté une partie des côtes bretonnes. Et là, je l'ai laissé à peu près au même niveau d'intensité, sauf qu'il traverse toute la France et que toutes nos autorités n'ont pas les moyens d'aller porter secours à mes personnages bloqués sur Ouessant. Et ça, elles vont passer 3 jours d'enfer sur cette île.
Sans communication du tout.
Sans aucune communication. Alors, ce que je voulais préciser, c'est que ce qui m'avait intéressé au départ, bon, c'est les Brestoises qui sont les premiers personnages. Mais ma première idée, ça avait été de faire un huis clos où, alors, il fallait absolument que ça soit une île parce que je voyais mal comment ça pourrait être différemment, où ça serait le maire seul autorité, seul officier de police judiciaire, un petit maire de campagne qui aurait été obligé de mener l'enquête. Alors bon, le maire de Ouessant, de Lampol, donc je lui donne pas toute l'aventure, mais il a quand même aussi un grand rôle dans ce livre.
Et la policière municipale aussi.
Et la policière municipale aussi. Je vois que tu l'as lu, hein.
Ah ouais. Il faut dire qu'il y a 200 passagers qui débarquent sur l'île en pleine tempête. Il faut les loger. Et dedans, évidemment, doit y avoir des terroristes. Mais qui ? Et en fait, ils se retrouvent avec la triplette de Brest, Isaac, le stagiaire, le maire et la policière municipale pour enquêter sur 200 personnes sans aucun moyen de communication, sans Internet, sans avoir, bien sûr, le pédigré des passagers.
Sans armes, au départ.
Ouais. Sans armes, et en plus, c'est pas évident parce que le peu de renseignements qu'ils reçoivent sont pas très engageants, et que dès l'arrivée, bien évidemment, va y avoir un meurtre. Et voilà, et donc c'est en pleine tempête, je vous laisse imaginer le suspense, c'est un peu Die Hard, quoi.
Oui, alors c'est pareil, j'avais envie de me faire plaisir dans un livre où je voulais qu'il y ait du suspense tout le temps et de l'action tout le temps. Je voulais vraiment, tu parles de blockbuster, c'est exactement ça, je voulais que le lecteur ne s'ennuie pas. Alors bon, c'est distrayant, hein, il faut pas chercher un bouquin philosophique, mais je pense que vraiment on doit prendre, j'espère qu'on prend plaisir à tourner les pages de ce bouquin et que on a envie d'aller au bout, quoi.
Ah, et quand même, il y a la force du préjugé. Il y a quand même toute une partie où justement tu démontes un peu la force des préjugés, la façon dont la tension monte sur l'île, augmentée par l'alcool, la peur, la connerie, et ça devient vite une situation intenable.
Ben voilà, je voulais aussi reprendre des thèmes qui sont un peu actuels, les préjugés, que ça soit d'ailleurs les préjugés contre la police, que ça soit les préjugés contre des religions, des races, et puis effectivement, comme tu le dis, avec tout ça, des gens qui sont pas des mauvaises gens en fait, mais qui peuvent se transformer très rapidement en gros bof, un peu connard, quoi. Voilà.
Bah ouais, l'alcool, la peur, c'est pas bon, quoi.
C'est pas bon.
Et lorsqu'on croit enfin voir le bout de l'histoire, il y a le second effet Poucheret. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais une seule fin.
Oui, mais ça, on peut pas en parler.
Non, on n'en parle pas. Mais enfin, c'est quand même une marque de fabrique.
Oui, je te dis, j'aime bien que ça. J'aime bien les vrais films d'action à l'américaine où c'est série où toutes les 10 minutes on trouve une idée nouvelle et tu croyais que t'atteignais la fin et hop, ça rebondit, ça repasse sur autre chose. Ça vraiment, j'aime bien ces effets. Alors, j'espère les réussir pas trop mal. Et en tout cas, j'essaye de jouer là-dessus.
Mais tout ce qui est la vie sur Wesson, les lieux, etc., tu fais un repérage minutieux avant ? Tu as été.
Alors, j'étais allé sur place et pour l'anecdote, j'étais avec un copain à qui je donne un rôle dans cette histoire, puisque j'en fais le contrôleur aérien de Wesson. On a visité tous les deux Wesson ensemble en vélo le jour de la mort de Poulidor. Et mon copain n'est pas un grand cycliste, il était mort de fatigue et pourtant il n'y a pas vraiment des côtes à Wesson. Et donc je me moque un petit peu de lui en faisant un fan de la bicyclette.
Ouais, mais en plus, la vie des gens sur l'île est assez extraordinaire quand même.
Alors la vie des gens, c'est pareil. J'ai été aidé. J'ai discuté avec une journaliste qui est là-bas. Je me suis un peu baladé. J'ai rencontré des gens qui m'ont parlé de leur m'ont dit ce qu'ils pensaient de leur vie sur l'île. C'était pas aussi idyllique qu'on peut le croire pour les gens qui sont là à l'année.
Tu casses bien l'idée du petit paradis, etc.
Voilà. Effectivement, quand tu es là-bas, si tout peut de tout ce qui est idyllique pour un touriste qui a le temps peut devenir un problème. Si tu as un problème de santé, si tu cherches du boulot, si voilà, c'est pas aussi facile qu'on peut le croire. Et puis en plus, il y a l'immobilier qui a absolument explosé. les gens se retrouvent à la tête d'un petit patrimoine parce qu'ils ont leur, ceux qui ont leur maison, mais ils peuvent pas, enfin ils peuvent pas acheter autre chose parce qu'ils n'en ont pas forcément les moyens, tu vois.
Ouais, c'est idem l'île de Ré, quoi.
C'est voilà, c'est un peu le cas de ces îles qui ont été vampirisées par le tourisme, quoi.
Et donc là, c'est le premier suspense, l'île abandonnée. Et pour les amateurs, dans pas très longtemps, le 17 septembre, sort L'Arme de fond aux éditions Filature.
Exactement.
Et toujours avec Léane et sa bande.
Alors oui, j'ai eu envie dans ce bouquin qu'il a, ça va être une sortie nationale chez un nouvel éditeur, donc dont tu viens de parler, Filature qui dépend de Dargo et qui est une publication qui sort en même temps qu'Alibi. C'est un peu c'est assez lié. C'est le troisième bouquin de cette édition, de cette société d'édition nouvelle. Et j'ai eu envie de remettre presque tous les personnages auxquels j'ai habitué mes lecteurs. Donc on va retrouver non seulement les triplettes, mais aussi personnages qui apparaissaient chez Gigal, qui est Johanna, et Gabin également.
Et c'est un peu un melting pot de tes précédents romans, pas seulement sur les personnages principaux, mais aussi sur les secondaires.
C'est un melting pot de mes précédents romans, et c'est aussi un petit clin d'œil à mon passé, puisque on retrouve que des régions dans lesquelles, en dehors des Pyrénées-Orientales que je n'ai pas mentionnées et qui me sont assez chères, mais on retrouve des endroits où j'ai vécu, enfin en France, à Nice, ouais, Versailles et le Berry où j'ai passé toute ma jeunesse.
Et tu l'as écrit avant ou après L'île abandonnée ?
Alors, je l'ai écrit bien avant L'île abandonnée, puisque ce bouquin est assez ancien. D'abord, je reprends un livre qui me tenait beaucoup à cœur, qui s'appelait Coq d'Azur, qui a été mon premier roman policier, qui était entièrement autobiographique, on peut dire. Et ce livre, j'étais pas trop content de la manière dont je l'avais écrit, j'étais pas trop content de la manière dont il avait été diffusé, et je l'ai complètement découpé, retravaillé, et de grandes parties de ce livre sont incluses dans L'Arme de fond.
Et ben, L'Arme de fond, on s'ennuie pas non plus, hein. Mais je peux vous le dire, c'est pas... C'est ça, il y a aussi du grand spectacle.
Alors, et puis de l'amitié, les relations entre ces deux sœurs, puisqu'on va retrouver deux sœurs qui sont toutes les deux commandants de police, une qui est à la police judiciaire de Nice et l'autre qui est Léane, donc à Brest, et elles vont enquêter sur des affaires qui vont se croiser et elles vont être obligées de travailler ensemble. Et autant il y a de l'amour familial entre elles, autant quand il s'agit de faire de la police, c'est chacune pour soi. Donc j'ai essayé de faire un peu d'humour là-dessus.
Ouais, puis on va dire qu'elles n'ont pas toutes les deux un caractère facile.
Et puis ouais, c'est des sales caractères, comme beaucoup de femmes flics que j'ai connues. Hein.
Ben, merci beaucoup Pierre. Alors je rappelle, il y a L'île abandonnée aux éditions du Palémon. Et il y a L'Arme de fond qui sortira le 17 septembre aux éditions Filature, qui dépendent de Dargo. Donc voilà, un gros programme pour Léane et toutes ses amies. Et puis on va écouter Miossec, bien sûr, Brest.
Ah ben, une obligation.
Bah, et obligé. Merci beaucoup, Pierre.
Merci à vous deux. Au revoir.
Est-ce que désormais tu me détestes d'avoir pu un jour quitter Brest, la rade, le port, ce qu'il en reste, le vent dans l'avenue Jean Jaurès. Je sais bien qu'on y était presque, on avait fini notre jeunesse, on aurait pu en dévorer les restes, même au beau milieu d'une averse. Tonnerre, tonnerre, tonnerre de Brest, mais nom de Dieu, plus la plus cesse. Tonnerre, tonnerre, tonnerre de Brest, même que l'on délaisse la rue des Siam, c'est nuit d'ivresse. Ce n'est pas par manque de politesse, je suis l'usure des nuages et de tes caresses. Ceci n'est pas un manifeste, pas même un sermon, encore moins une messe. Mais il fallait bien qu'un jour je disparaisse. Doit-on toujours protéger l'espace? Tonnerre, tonnerre, tonnerre de Brest, le nom de Dieu que la pluie cesse. Tonnerre, tonnerre, tonnerre de Brest, le nom de Dieu que la pluie cesse. Tonnerre, tonnerre, tonnerre de Brest, même la terre part.
Et voilà, on quitte Berlin, le Cap, Paris, Ouessant, retour à la réalité. Nous pouvons continuer de découvrir le meilleur de la rentrée littéraire léger. À peine 511 romans cette année, une paille. Nous nous retrouvons très vite avec quelques autres pépites. Protégez-vous, masquez-vous, lisez, bye bye.
Des polars et des notes.